Frères et sœurs,
vous savez, dans la Bible, la parole de Dieu mentionne trois hommes qui sont nés sous le vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, c'est quoi? C'est-à-dire, celui qui est consacré à l'Éternel. Celui qui est mis à part pour Dieu. C'est ça le vœu de Naziréa. Il y a trois hommes qui sont nés sous ce vœu-là dans la Bible. La Bible cite trois hommes. Et tous ces trois hommes sont nés d'une manière miraculeuse. Parce que leurs parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et pendant tout le temps de leur Naziréa, de leur vœu, tous les temps-là qui sont consacrés à l'Éternel, ils devraient observer certaines restrictions, c'est-à-dire des choses à ne pas faire. Et ces trois hommes, je vous laisse le temps de réfléchir un peu pour booster un peu nos neurones. Qui sont ces trois hommes? Samson, Samuel et Jean-Baptiste. Samson, Samuel et Jean-Baptiste. Gédéon n'est pas né d'une manière miraculeuse. Voilà. Alors, ce matin, nous allons parler de l'un de ces trois hommes. Nous allons parler de Samson. Samson, non seulement parler de lui, mais d'un événement qui s'est produit juste avant la rencontre de Samson et cette fameuse rencontre que nous connaissons bien de Samson et Dalila. Voilà, c'est sur cet événement-là que nous voulons parler. Cet événement qui s'est produit juste avant sa fameuse rencontre avec Dalila. Et pour cela, je vous invite d'ouvrir donc vos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 16, le verset 1 à 3. Juges, dans l'Ancien Testament, chapitre 16, le verset 1 à 3. Nous allons lire la parole de Dieu. Le livre de Juges, chapitre 16, et nous commençons à partir du premier verset, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu pour sa seule et unique gloire. Le verset 1. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme de mauvaise vie et il entra chez elle. Et ce verset 1 est traduit de diverses manières selon les versions. Dans d'autres versions, il est dit plus que ça. Il donne plus de détails que ça. Mais dans Louis II, il est dit qu'il partit pour Gaza, il vit une femme de mauvaise vie et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Le verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et elle les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. C'est la parole du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ces moments. Encore une fois de plus que nous passons dans ta présence et le moment pendant lequel toi tu veux nous parler. Saisis-toi, Seigneur, de chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions aussi la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les trois premiers versets du chapitre 16. Le titre de notre message, le péché de Samson à Gaza. Le péché de Samson à Gaza. Le passage que nous venons de lire résume seulement une petite partie de la vie de Samson. Ce n'est pas toute la vie de Samson, juste une petite partie de la vie de Samson. Et comme nous l'avons dit, dès le ventre de sa mère, Samson fut consacré à l'Éternel. Vous pouvez lire cela dans Juges chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 14. Il était consacré à l'Éternel. Il était né sous le vœu de Naziréa, Samson. Donc, il était tenu de respecter certaines règles parce qu'il était mis à part pour Dieu, pour l'Éternel. Et le chapitre 16 de Juges nous introduit dans la deuxième partie de la vie de Samson. Ce n'est pas la première partie de sa vie, mais la deuxième partie de la vie de Samson. Et cette deuxième partie de la vie de Samson, qui commence à partir du chapitre 16, c'est le début d'une fin de règne triste et terrible pour Samson après 20 ans de règne couronné de succès et de victoire. Et ayant atteint les sommets, Samson va faire une chute. Bien sûr, une chute, c'est toujours de haut en bas. Va faire une chute du haut en bas. Nous savons tous que Samson avait une force remarquable. Mais il avait aussi des faiblesses frappantes. Quand nous lisons toute sa vie, mais à travers ses faiblesses, Dieu a démontré sa puissance. Malgré ses faiblesses, à travers ses faiblesses, l'Éternel a démontré sa puissance. Et ceux qui ont la Bible version Vie Nouvelle, cite les points forts et les points faibles de la vie de Samson. Ces points forts, d'après la Bible, version Vie Nouvelle, Samson était naziréen dès sa naissance, dès le ventre de sa mère. Il était consacré à l'Éternel. Il est connu pour sa force et ses exploits, que nous connaissons tous. Toujours parmi ses points forts, il est cité parmi les héros de la foi. En hébreu, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 32. Ses points forts, il a commencé à libérer Israël de l'oppression des Philistins. Alors, ses points faibles, il a brisé son vœu de Naziréen et a désobéi à plusieurs reprises à la loi de Dieu. Ses points faibles encore, il était dominé par les désirs de la chair. Toujours ses points faibles, il se fiait à des personnes qui ne le méritaient pas. Comme le cas que nous venons de lire dans les trois premiers versets du chapitre 16. Et ce n'était pas le seul cas. Donc, dans notre passage de ce matin, nous voyons plusieurs éléments qui ont conduit Samson à tomber dans le péché. Ces trois versets nous donnent quelques éléments qui ont conduit Samson à désobéir, à tomber dans le péché. Et trois choses que nous pouvons retenir de ce texte. Il y a trois choses que nous pouvons retenir de ce texte et que nous voulons partager ensemble. Premièrement, Samson était au mauvais endroit. Deuxièmement, les mauvaises attirances de Samson. Et troisièmement, la délivrance de Samson. Pardon, excusez-moi. Ce sont donc... Pardon. Excusez-moi. Donc, ce sont donc les trois choses que nous pouvons retenir de notre texte. Alors, le premier point, Samson était au mauvais endroit. Par son choix d'aller à Gaza, parce que le verset 1 nous dit, Samson partit pour Gaza. Par son choix d'aller à Gaza, Samson était au mauvais endroit, regardant les mauvaises choses. Pourquoi descendre à Gaza, où s'assemblaient les princes des Philistins, d'après le verset 23 du chapitre 16. C'est là où s'assemblaient les princes des Philistins, les ennemis d'Israël. Pourquoi descendre à Gaza? Que fait-il à Gaza? Que fait-il à Gaza? Gaza qui était une forteresse des Philistins, une forteresse de ses ennemis. Une ville connue pour sa méchanceté et son idolâtrie. Et Gaza, c'est là où les Philistins avaient non seulement leur temple, le temple de leur dieu, idole bien entendu, leur temple de dieu Dagon, si vous lisez Juges chapitre 16, le verset 3, vous verrez que c'est là où se trouvait le temple de Dagon. Et Dagon était leur dieu, leur idole, le dieu idole des Philistins. Mais non seulement que c'était le temple où se trouvait le temple de, donc de leur dieu, mais c'était aussi leur quartier général. Leur quijé, comme on dit en termes militaires. C'était leur quartier général. Pourquoi descendre à Gaza? Samson se sentait-il vraiment en sécurité, en plein territoire ennemi? Car on ne se sent jamais en sécurité lorsqu'on vit en violation de la loi de Dieu. Toujours parlant de Gaza, c'était une ville associé au jugement de Dieu. Le prophète Amos, dans Amos chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 7, si vous lisez cela dans l'Ancien Testament, le prophète Amos avait prophétisé un jugement sur cette ville. Pourquoi? À cause des péchés des Philistins. Cette ville était sous le jugement de Dieu. Et plus encore, Gaza, c'est dans cette ville que Samson, plus tard, fut emprisonné. C'est dans cette ville-là, plus tard, si nous lisons un peu plus loin, c'est là où il fut emprisonné, et c'est là où on lui a crevé les yeux. Toujours dans cette ville-là. Mais cette ville, encore Gaza, c'est là aussi que Samson a tué plus de Philistins de son vivant. Car si nous lisons Juges chapitre 16 au verset 30, je lis pour vous, Juges chapitre 16, le verset 30, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et il se penchant fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Toujours dans cette même ville. Et oui, c'était une ville idolâtre. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi une ville qui a servi de point de repère, si vous lisez la Bible, qui a servi de point de repère dans le Nouveau Testament. Si vous vous souvenez, le point de repère dans le Nouveau Testament, pour qu'un Éthiopien puisse entendre l'Évangile et être sauvé. Parce que si vous lisez Actes chapitre 8, le verset 26 à 39, c'est là où un ange du Seigneur a dit à Philippe, « Lève-toi, va du côté de Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Philippe a partagé l'Évangile avec l'eunuque éthiopien et l'a ensuite baptisé. Cette ville idolâtre a servi de point de repère dans le Nouveau Testament pour qu'un Éthiopien puisse être sauvé. Oui. En partant pour Gaza, Samson pensait qu'il était assez loin de son peuple, que personne n'allait le reconnaître. Et la nouvelle n'arrivera pas chez lui, en Israël. Mais tout le monde à Gaza connaissait Samson, ou du moins a entendu parler de Samson. Pourquoi? Parce qu'il était l'ennemi public numéro un. Il ne pouvait pas passer inaperçu, jamais. Et je vais vous ouvrir une petite parenthèse, on ne fait pas la politique. Nous ne faisons pas la politique. Je vais ouvrir une petite parenthèse et je l'ai dit tout doucement. C'est comme si Poutine va la nuit à l'Ukraine, à Kiev. Vous pensez qu'il va passer inaperçu à l'Ukraine? Non. On referme la parenthèse. Voilà. Donc, Samson, il était l'ennemi public numéro un. Il ne pouvait jamais passer inaperçu. Il ne pouvait pas entrer et sortir de Gaza sans être repéré. C'est tout à fait normal. Il était au mauvais endroit. Nous pouvons citer un autre exemple, qu'en allant en Égypte à cause de la faim, sans consulter Dieu, Abraham s'est retrouvé aussi au mauvais endroit, là où il n'aurait pas dû être, et a commis un péché en disant au Pharaon que sa femme Sarah n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Pourquoi? Il était au mauvais endroit, compte tenu des circonstances, il a commis un péché. C'était une défaillance de sa foi. C'était une défaillance de sa voix, de sa foi, parce que nous savons que c'est là où Sarah a pris Agar, l'Égyptienne, comme sa servante. Et nous connaissons la suite. L'Égypte est souvent évoquée dans l'Ancien Testament comme un pays idolâtre. Samson était aussi dans une ville idolâtre, à Gaza. Ce n'était pas un endroit idéal pour un Naziréen, pour celui qui est consacré à l'Éternel, celui qui est mis à part pour l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela nous amène alors à notre deuxième point, les mauvaises attirances de Samson. Les mauvaises attirances de Samson. entrer la nuit dans la maison d'une femme de mauvaise vie était quelque chose à éviter pour lui. C'était quelque chose à éviter. Il était censé vivre dans la sanctification. Étant naziréen, il était censé vivre dans la sanctification. Plus étrange encore, et la raison pour laquelle il est entré chez cette femme de mauvaise vie. Vous savez, Samson avait un problème lorsqu'il était jeune. Et ayant atteint le sommet, le même problème qu'il n'a pas su régler dans sa jeunesse, le même problème va surgir et le faire chuter. Pourquoi le même problème va surgir et le faire chuter? Parce qu'il n'a pas pris le temps de régler ce problème qu'il avait. Et son problème, frères et sœurs, était son attirance pour les femmes étrangères, son attirance pour les femmes païennes. Dieu connaissait les caractères et les faiblesses de Samson. Et Dieu va utiliser plusieurs femmes des Philistins pour qu'il leur fasse la guerre. Si vous lisez bien le livre des Juges. Bien qu'il détestait, Samson détestait les Philistins, mais il ne pouvait pas rester loin de leurs femmes. Et je pourrais même dire que il a toujours eu des problèmes avec ses yeux. Il a toujours eu des problèmes avec son regard, avec ses regards, avec ses yeux. Pourquoi? Parce que le chapitre 14 des Juges, au verset 1, si vous regardez, donc, vous lisez au chapitre 14, le verset 1, ce chapitre commence par ces termes, le verset 1 du chapitre 14. Samson descendit à Tina et il fait quoi? Il vit toujours ses yeux. Il vit une femme parmi les filles de Philistins. Il vit une fille de Philistins. Ses yeux ont vu. Et cela était suffisant pour qu'il demande à ses parents de lui la donner pour femme. Si vous lisez bien l'histoire à partir du verset 14, 1 jusqu'un peu plus bas. C'était suffisant pour lui de demander à ses parents de la lui donner pour femme. Bien que ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Et on connaît la fin malheureuse de cette histoire, de cette union avec cette fille philistine. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Il vit une fille de Philistin. Ça, c'est au verset, au chapitre 14. Venons maintenant au chapitre 16, au verset 1. Le chapitre 16, le verset 1 nous dit quoi? Samson partit de Gaza. Et il a fait quoi? Il vit encore ses yeux. Il vit une femme de mauvaise vie, et entra chez elle. Toujours ses yeux, son regard. Il vit une femme et entra chez elle. Un peu plus bas, au verset 4, toujours du chapitre 16, il est dit, selon les versions, Samson vit et aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Dalila. Toujours ses yeux. Elle s'est nommée Dalila. Et toutes ces femmes, toutes ces trois femmes, sont des païennes. Afin de préserver son peuple de toute corruption morale, Dieu avait interdit à Israël des signures d'épouser les femmes païennes. C'était une interdiction que Dieu avait donnée à son peuple de ne pas signer avec les femmes païennes. Voici ce que l'Éternel dit dans Deutéronome chapitre 7, le verset 3 à 4. Je vais lire pour vous. Deutéronome chapitre 7, le verset 3 à 4. L'Éternel dit ceci. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui seraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait promptement. Voici l'interdiction que le peuple de Dieu avait, l'interdiction que Dieu avait faite à son peuple. Bien entendu, y compris Samson. Alors, revenons à notre verset. Samson vit une femme de mauvaise vie et entra chez elle. Vous savez, frères et sœurs, nous pouvons être souillés par des choses que nous regardons. Rien que par nos yeux, nous pouvons être souillés. Lorsque nos yeux regardent de mauvaises choses, nous risquons d'être attirés par ces choses et s'exposer à la tentation. Nous péchons parce que nous cédons à notre propre convoitise à partir de nos yeux. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15. Oui, nos yeux peuvent nous entraîner au péché. David a été entraîné dans le péché par des choses qu'il avait vues. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba. Parce que qu'il a vu Bathsheba. Connaissons l'histoire. Et David est tombé dans le péché. Tout cela à cause du regard des yeux. Nos yeux à nous. Frères et sœurs, recherchons l'aide de l'Éternel. Recherchons l'aide de l'Éternel pour protéger nos yeux des choses qui pourraient nous souiller. Et le monde dans lequel nous vivons, ce monde est plein d'attirances, de mauvaises attirances. Et ces attirances passent par, surtout aujourd'hui, les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp. Même quand nous marchons dans le métro, nous prenons le métro, les panneaux d'affichage. Dans la rue, nous croisons des personnes, des fois qui sont habillées d'une certaine manière. Les vidéos, les films que nous regardons, que nos yeux regardent. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons donc faire très attention à tout ce que nos yeux regardent, qui peuvent troubler nos pensées. David était troublé par ses pensées parce qu'il a vu Bathsheba. Et ses pensées étaient troublées. Alors que la parole de Dieu dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est toutes ces choses-là qui doivent être l'objet de nos pensées et non les mauvaises choses. Faisons donc attention à ce que nos yeux regardent. Parce que nos yeux vont influencer nos pensées et nos pensées vont penser autre chose. Ils ne vont plus penser à ce qui est pur, alors que le Seigneur nous recommande que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, digne de louange, doit être l'objet de nos pensées. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, quand nous marchons, même quand nous restons à la maison, qu'est-ce qui est l'objet de nos pensées? Qu'est-ce que nos yeux regardent qui trouble nos pensées? Nos pensées se focalisent sur quoi? Sur le film que vous avez regardé hier? Sur la vidéo qu'on vous a envoyée sur WhatsApp que vos yeux ont vue? Ou sur un petit extrait de TikTok qu'on vous a envoyé qui a troublé vos pensées ou quoi? Faisons donc attention, frères et sœurs. Psaume 119, verset 37, dit ceci. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Que le Seigneur nous aide à cela, frères et sœurs. Si vous allez dans des endroits où vous pouvez être tenté, vous vous exposez au péché. Vous vous exposez au péché. Et pourtant, la Bible nous exhorte d'éviter les endroits où nous pouvons être exposés au péché. La Bible exhorte aux enfants de Dieu d'éviter ces endroits-là. Dit, n'y allez pas. Il ne faut pas aller là-bas, dans ces endroits. Proverbe chapitre 4, le verset 14, 15, dit ceci. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie de l'homme mauvais. Évite-la. N'y passe point, détourne-t'en d'elle et passe outre. Passe à côté. Passe à côté. Passe à côté. De ne pas aller dans des endroits où il y a des méchants. Qu'on se détourne de ces endroits. Il y a un exemple dans la Bible. Dans Genèse chapitre 13, les versets 12 à 13, d'un personnage que nous connaissons bien, Lot. Lot avait choisi d'habiter Sodome. Et pourtant, les habitants de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Mais Lot a souhaité demeurer à Sodome, demeurer là où il y avait les gens méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Lot s'est exposé lui-même et toute sa famille au péché. Et nous savons ce qu'ils ont subi comme conséquence en faisant le choix d'aller habiter à Sodome. Nous connaissons tous la suite. Vous savez, mieux vaut le mépris des autres que d'aller dans les endroits où nous pouvons être exposés au péché. Et là, je voudrais particulièrement m'adresser surtout aux jeunes, le vendredi soir, le samedi soir. Souvent, ce sont des moments où les jeunes s'éclatent. Ah, viens, on va partir dans tel endroit. Viens, on va faire ceci. Viens, on va faire. Mieux vaut dire non et subir le mépris des autres. Ils vont dire, ah, toi, t'es pas branché. Toi, t'es pas ceci. Toi, t'es... Autant accepter cela. Autant accepter cela. Non seulement les jeunes, même nous, les adultes aussi. Autant accepter le mépris des autres que d'aller dans ces endroits-là. Ne fais pas les rombos. Ah oh non, moi je vais aller, mais ça ne me fera rien. Non. Fouillez, évitez. C'est mieux. Samson était trop confiant. Il pensait qu'il pouvait supporter cette attirance de la chair. Malheureusement, il était impuissant face à ses convoitises. Il était impuissant, démuni. Frères et sœurs, la même chose peut nous arriver si nous ne faisons pas attention. Romains chapitre 6, verset 12 dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Samson devait fuir la tentation. Il devait fuir la tentation comme Joseph l'a fait en Égypte face à la femme de Potiphar. Nous connaissons l'histoire. Les Philistins ont tendu un piège et ont attendu Samson toute la nuit pour le capturer. Ils n'étaient pas pressés, ils étaient patients. Les Philistins étaient patients. Et plus encore, ils n'ont pas fait savoir à Samson qu'ils étaient là. Non. Ils n'ont rien dit. Ils attendaient. Ils patientaient. Vous savez, frères et sœurs, le pécheur ne sent toujours pas le piège se refermer sur lui. On ne le sent toujours pas. Le piège est en train de se refermer sur toi, mais tu ne le sens pas. Pourquoi? Parce que le péché est aussi patient dans sa manière d'agir. Il est patient jusqu'à ce que le mal soit fait. Jusqu'à ce que le mal soit fait, et après on se dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Oh là là, qu'est-ce que je fais? Mais le piège s'est déjà refermé sur toi. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma famille élargie, mais nous on a connu ça dans notre famille, notre sœur. Qu'est-ce que je fais? J'aurais pas dû faire ça. C'est trop tard. Le piège, tac, s'est refermé sur toi. Le péché est patient. Le Philistin était patient envers Samson. Mais nous louons le Seigneur parce qu'il nous a délivrés du péché. Il nous a donné une nouvelle vie et pardonne à tous ceux qui se tournent vers lui, sincèrement. Nous pouvons louer le Seigneur pour ça. Parce que c'est sa parole qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais il faut que cela soit sincère. Il faut s'approcher du Seigneur, de notre Sauveur. Il connaît nos faiblesses. Et le frère a lu un passage où dit que lui, le souverain sacrificateur, il peut compatir à nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il a vécu comme nous, le Seigneur. Il a eu faim, il a eu chaud, il était fatigué. Et il connaît ce que nous pouvons traverser dans notre chair mortelle. C'est pour cela qu'il peut compatir à nos faiblesses. Oui. Quand je lis ce passage, ça m'a beaucoup troublé, oui, c'est une façon de parler, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que nous avons tous des domaines dans notre vie dans lesquels nous luttons jour et nuit contre cette chair mortelle. Chacun d'entre nous, comme nous sommes là, commençant par moi-même, nous avons tous des domaines dans lesquels nous luttons jour et nuit contre nos faiblesses. Mes frères et sœurs, regardons Jésus-Christ. Faisons confiance à Jésus-Christ. Laissons le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, agir en nous. Ne mettons pas la confiance à la chair, mais venons à lui. Venons à Le troisième et le dernier point, la délivrance de Samson. Les Philistins sont déterminés à le capturer et à le tuer. S'il n'a pas eu l'intervention de l'Éternel, il aurait été tué cette nuit-là. Mais lorsque Samson se réveilla, comme le dit la parole de Dieu, il s'éleva, sortit et prit les portes de la ville et les emporta jusqu'au sommet de la montagne qui est devant Hébron. Samson l'a emporté comme s'il ne pesait absolument rien, alors que c'était très lourd. Sa délivrance était la grâce de Dieu qui agit dans sa vie. Rien que la grâce de Dieu qui agit dans sa vie. Il méritait d'être capturé par le Philistin. C'est la grâce de Dieu qui lui a permis de prendre conscience de leur complot, de s'échapper avant qu'ils ne puissent tendre leur piège. C'est la grâce de Dieu qui lui a permis de sortir en un seul morceau de cette situation pécheresse. Malgré son péché, Dieu donna à Samson une force surnaturelle pour s'échapper à ses ennemis. Et quand on lit bien l'histoire, les portes de la ville, les portes symbolisaient la sûreté, la sécurité de la ville, en les emportant jusqu'à Hébron, où se trouvait le peuple de Dieu, Samson humiliait une fois de plus les Philistins. Et tout cela, la destruction, leur destruction symbolisait la destruction de la ville de Gaza. Le plan de Dieu était plus grand que Samson lui-même. Mais Dieu l'a utilisé malgré son péché. Et nous voyons dans ce passage Dieu, nous pouvons dire, travaillant à contre-courant de la désobéissance d'Israël pour accomplir ses promesses, pour accomplir ses plans. Dieu fit preuve de miséricorde à Samson pour échapper aux conséquences de son péché. Oui, certains peuvent dire, mais ce qu'il a fait cette nuit-là n'a eu aucune conséquence immédiate. Aucune conséquence. Dieu ne l'a pas frappé. Il n'y a eu aucune conséquence. Mes frères et sœurs, ce n'était qu'une partie remise. Le châtiment n'était que reporté. Pourquoi? Parce que si nous lisons verset 20, toujours chapitre 16 au verset 20, quand Dalila lui a dit, « Les Philistins sont sur toi. » Qu'est-ce que Samson a dit? Samson dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Voilà. « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il était tellement préoccupé par son péché avec Dalila qu'il ne savait même pas que le Seigneur s'est retiré de lui. Il ne savait même pas. Et cela a entraîné de cruelles épreuves et souffrances pour Samson. Il pensait qu'il allait s'en sortir comme les autres fois, comme à Gaza avec cette femme de mauvaise vie. Je vais m'en sortir. Mais à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, l'Éternel qui était si présent jusque-là s'est retiré de Samson et Samson a perdu sa force. C'est pour cela qu'on a dit que ce n'était que partie remise. Je m'en tirerai comme les autres fois. Frères et sœurs, que celui qui croit être debout, la Bible dit, prenez garde de quoi? de tomber. Faisons attention. La Bible dit, c'est pourquoi celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je m'en tirerai comme les autres fois. Pas un souci ça. Les Philistins, pas un souci. Alors que cette fois-là, non, l'Éternel s'est retiré de lui. Attention, frères et sœurs, à ceux qui disent, oui, j'ai déjà péché plus d'une fois, moi. Et rien ne s'est passé dans ma vie. Hein. Je n'ai pas subi les conséquences de mes péchés. Certains peuvent dire comme ça, comme Samson, avec cette femme de mauvaise vie. Et après, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. J'ai péché plus d'une fois, mais pas de conséquences. Dieu ne m'a pas frappé. Mais attention, frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ce que dit la Bible. Samson a dit cela et nous savons comment Samson a fini. Le temps nous presse, frères et sœurs. Nous allons conclure par ces quelques mots. Samson était un homme physiquement fort, mais moralement, il était faible. Il a démontré sa puissance à maintes reprises sur les ennemis de Dieu, sur les ennemis du peuple de Dieu, mais il était impuissant face à la faiblesse de sa chair. Comme je l'ai dit, nous possédons tous des domaines dans notre vie dans lesquels nous luttons jour et nuit contre la chair. Et ces domaines varient d'une personne à l'autre. Moi, peut-être, je ne sais pas quoi, la colère ou quoi. L'autre, c'est l'orgueil. L'autre, c'est autre chose. Chacun a son domaine. Chacun a son domaine. Faisons attention. Mais la parole de Dieu nous exhorte ceci. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, la parole de Dieu nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. Rejetons. Quel que soit le fardeau qui nous enveloppe, frères et sœurs, si nous ne sommes pas capables de le vaincre par la puissance du Saint-Esprit, cela peut avoir des conséquences dans notre vie. Un petit moment de faiblesse, parce que cela arrive souvent. Dès qu'il y a un petit moment de faiblesse, un moment de faiblesse peut nous faire retomber dans de vieilles habitudes du péché. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'apparence extérieure de Samson montrait qu'il était consacré à l'Éternel, qu'il était naziréen. Sa longue chevelure le démontrait. Parce que la Bible dit que le rasoir ne passera pas sur la tête. Donc sa longue chevelure le démontrait, mais intérieurement, son cœur était partagé. Posons-nous alors cette question, frères et sœurs. Notre apparence extérieure, mon apparence extérieure, ton apparence extérieure, frères et sœurs, ce que nous montrons au dehors correspond bien à l'état de notre cœur. Samson démontrait son vœu de Nazaréen à l'extérieur, mais à l'intérieur, son cœur était partagé. Et toi, ma sœur, toi, mon frère, moi-même qui vous parle, mon apparence extérieure parle de mon intérieur, de mon cœur ou pas. Ce qui a de la valeur pour le Seigneur, ce n'est pas notre aspect extérieur. Notre aspect extérieur n'a pas de valeur devant le Seigneur. Ce qui est de la valeur auprès de notre Seigneur, c'est l'état de notre cœur. Samson n'a su respecter son Nazirée, son vœu, malgré sa force, malgré ses victoires. Il n'a su vaincre les faiblesses de sa chair. Il est l'exemple d'un homme qui s'est laissé dominer par les faiblesses charnelles et la fin de sa vie a été bien malheureuse. Si vous lisez au verset 21 du chapitre 16, il est dit, les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain, ils tournaient la meule dans la prison. Voilà la fin malheureuse de Samson. Alors, frères et sœurs, remercions Dieu pour sa miséricorde qui dure toujours et sa grâce patiente envers nous. Nous devons protéger nos vies de toutes les mauvaises influences qui nous éloigneraient du Seigneur. Quel genre de personnes fréquentez-vous? Quel genre de personnes moi je fréquente? Si les personnes que nous fréquentons ne sont pas au Seigneur, elles influenceront notre façon de penser et d'agir. Faisons attention. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit la parole de Dieu. Faisons attention aux endroits où nous posons nos pieds. Que faisons-nous à ces endroits? Et toutes ces questions, frères et sœurs, ont beaucoup à voir avec la direction que peut prendre notre vie. Vraiment que le Seigneur nous aide. En commençant par moi-même, que le Seigneur bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, nous te demandons seulement que tu nous aides, Seigneur, à marcher d'une manière digne des enfants de lumière. Que nos yeux puissent regarder des choses qui sont pures, qui sont vraies. Afin que nos pensées, Seigneur, puissent être consacrées à ce qui est pur, vrai et digne de louange. Et qu'à chaque instant, Seigneur, nous puissions glorifier et louer ton nom en toutes choses et que nous puissions marcher dans la sainteté, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.